nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Les Sentinelles de l'Océan, le rendez-vous régulier de Jacques Rougerie sur Canal Académie, est consacré aujourd'hui au Forum Global des Océans, où l'académicien s'est rendu en juin dernier et où il a présenté son projet Sea Orbiter, digne des plus belles aventures humaines et qui est en passe de se concrétiser. Le Forum Global des Océans, qui fêtait ses 10 ans à Rio +20 sous l'égide des Nations Unies, se réunit pour aider les États à mettre en œuvre la réglementation internationale relative aux océans. Parmi ces missions, notons l'aide aux petits États insulaires en développement, l'identification des obstacles et des avancées de l'agenda des océans. Depuis sa création en 2002, 110 pays ont ainsi rejoint cette institution aux côtés des différentes agences des Nations Unies en rapport avec les questions liées aux océans, aux côtés également de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, aux côtés de dizaines et de dizaines d'ONG, mais aussi d'experts scientifiques, de groupes aussi du secteur privé et d'universités. Jacques Rougerie est l'initiateur d'une véritable architecture de la mer qui va au-delà de l'architecture marine. Le point avec l'académicien sur les enjeux maritimes du monde d'aujourd'hui à l'occasion des 10 ans du Forum Global des Océans, dont il a été l'invité cette année en 2012. Il est le créateur de maisons sous-marines dès les années 70, de bateaux révolutionnaires à l'intérieur desquels on peut voir ce qui se passe sous l'eau. Parmi ses créations architecturales, citons Galatée, première véritable maison sous-marine en 1977, l'Océanopolis de Brest, celui de Boulogne-sur-Mer, le projet du musée d'archéologie sous la mer d'Alexandrie, pour ne citer que quelques-unes de ses œuvres. Versant architecture marine, Jacques Rougerie est un créateur hors pair. L'œil des mers, dit l'Aquaspace, est l'un de ces navires à coque centrale transparente qu'il a défendu et réalisé contre l'avis de tous. Plusieurs de ces bateaux révolutionnaires ont vu le jour, des aquascopes semi-submersibles d'observation et même un trimaran à coque centrale transparente. Il est surtout l'auteur du fantastique projet Sea Orbiter que le grand public commence à bien connaître. Sea Orbiter est un vaisseau des temps modernes, une plateforme flottante, pensée depuis 1998. Il a une forme de voile très allongée sur un axe vertical de 58 mètres de haut. Sa partie immergée est un poste d'observation formidable des eaux sous-marines avec de grands hublots. Elle comprendra un sas de communication direct pour les plongeurs et les robots sous-marins capables de descendre à plus d'un kilomètre de fond. De haut en bas, on pourra y observer la mer au-dessus et en dessous de la surface des eaux. Vaisseau du futur pour le futur, Sea Orbiter va parcourir les mers et les océans pour récolter des données scientifiques sur les courants sous-marins, la diversité des espèces, leur évolution par rapport aux problèmes engendrés par notre économie mondiale et le réchauffement climatique. Grâce à sa collecte de données uniques, effectuée en plusieurs points du globe au fil de ses missions, et reliée à d'autres stations scientifiques marines ou terrestres, Sea Orbiter devrait apporter des réponses nouvelles au réchauffement climatique et surtout à la préservation des océans. Le bel outil s'inscrit dans une œuvre architecturale des plus originales, fruit d'un parcours peu commun, qui fait de Jacques Rougerie un océanographe, un architecte, un expérimentateur, un visionnaire. Grand plongeur, il est aussi détenteur du record du monde du plus long séjour sous la mer, 71 jours. Bonjour Jacques Rougerie.
Bonjour.
Alors avant de faire le point sur le Forum Global des Océans, où en est le projet Sea Orbiter là à cette date du mois de juin 2012?
Alors, Sea Orbiter fédère un certain nombre d'industriels autour de ce projet pour la construction et pour l'équipement même de Sea Orbiter, de la motorisation, justement des surfaces transparentes en polycarbonate ou alors tout simplement la coque de Sea Orbiter qui est en aluminium. Donc on a fédéré l'ensemble de ces acteurs qui vont construire, qui vont aider à la construction et au partenariat de Sea Orbiter, donc À l'heure actuelle, nous avons choisi avec ces différents acteurs le chantier. Donc, ça va se construire à Saint-Nazaire, dans les Pays de la Loire, avec donc tous ces acteurs du Pays de la Loire, mais qui sont en même temps, comme technique, des acteurs nationaux, mais surtout internationaux. Voilà, donc on est prêt à la construction. Tout est prêt pour démarrer le chantier début d'octobre ou novembre. Il nous manque tout simplement un dernier partenaire avec qui nous discutons en ce moment pour pouvoir passer à l'acte au niveau tout simplement bancaire. C'est-à-dire, c'est la dernière mise de fonds qui permettra de lancer définitivement le chantier. Mais nous sommes fin prêts pour le chantier.
Comment ça se passe quand il manque comme ça une... C'est combien, 20%, c'est ça?
C'est exactement ça. Donc, il manque 20%. Donc, on ne peut pas démarrer le chantier tant qu'on n'a pas ces 20%. Mais bon, il y a quand même 80% que nous avons au niveau fonds, au niveau partenariat, à différents niveaux pour la construction. Nous avons aussi l'exploitation qui est bien cernée avec un certain nombre d'instituts de recherche étrangers, et donc d'utilisateurs aussi qui vont utiliser pour différentes raisons, soit sur les essais pour les énergies renouvelables venant de la mer dans certains cas de figure, par exemple un système avec le MarineTech d'hélice qui permet de capter l'énergie de la houle à partir du disque qui est à moins 12 mètres. Donc c'est un nouveau système qui n'existe pas, qu'on va tester directement sur des longues durées pendant toute cette traversée du Gulf Stream.
Ce nouveau système, par exemple, c'est pour alimenter le ciel orbitaire ou c'est pour autre chose?
Tout à fait. Alors, le
c'est à titre scientifique ou c'est pour le bateau lui-même?
C'est pour le bateau lui-même. Enfin, ça permettra de tester un certain nombre de capteurs pour le bateau lui-même, bien entendu, mais aussi pour développer après des technologies dérivant justement de ces capteurs que nous testerons à bord du Sea-Orbiter. Alors, Sea-Orbiter, qu'on soit bien clair, l'ensemble des capteurs, nous avons des capteurs au-dessus de la surface de l'océan, c'est-à-dire nous avons des capteurs au niveau solaire, nous avons des capteurs de deux grandes éoliennes au-dessus, et en dessous, nous avons des capteurs de houle qui permettent donc toute une série de 20 capteurs de houle autour de ce disque qui fait 30 mètres de diamètre. Donc ça alimente en énergie, ça accompagne donc en énergie les capacités du Sea-Orbiter. Mais bien entendu, quand nous avons tout un système de propulsion pour changer de courant ou changer de cap ou se dégager d'une situation délicate ou tout simplement rester en positionnement dynamique, c'est-à-dire en position fixe, nous avons du biofuel algal que nous sommes en train d'étudier avec EADS. L'avantage du biofuel algal à partir des algues, c'est qu'il n'y a aucune émission de CO2. Et là, nous sommes dans les énergies renouvelables.
Et ça, ce fuel, il n'existe pas?
Ah non, le biofuel algal à l'heure actuelle existe en expérience.
Oui.
C'est très, très, très prometteur. EADS a réussi à faire voler un Airbus au biofuel algal, mais il faut être clair, ça coûte très cher. C'est tout un système qui est en train de se mettre en place et qui va aller très, très loin dans les énergies de demain parce qu'il y a une potentialité énorme à travers les algues, à travers le phytoplancton pour fournir justement ce biofuel algal qui ne sera pas uniquement, bien entendu, la substitution des énergies fossiles, mais ça va contribuer d'une façon conséquente à la substitution des énergies fossiles.
Ah, pardonnez mon scepticisme. Est-ce que justement ce fuel d'un nouveau genre peut être...
Pour les voitures?
Non, mais peut être néfaste pour la mer?
Non.
Puisqu'il faudra produire des algues, est-ce qu'il peut y avoir un effet négatif
vous avez raison
à sa production, puisque si on passe à une masse industrielle ou à une production industrielle,
oui.
Ça
alors,
peut être...
Qu'on soit bien clair, le biofuel algal sera produit dans des systèmes de zones de développement.
Limité.
C'est-à-dire des sortes de lagons, de structures adaptées pour le développement, pour créer une certaine densité de ces algues, mais en aucun cas ça aura des conséquences, du moins on espère, on fera tout pour, sur le milieu lui-même. On prendra un certain nombre de souches d'algues pour après le développer, soit dans des bassins à terre, soit dans des structures flottantes. Mais en aucun cas, je ne pense, non, ne voyez pas, on ne va pas refaire, reproduire ce que nous avons déjà produit pendant près d'un siècle. Non, la priorité, c'est de rester dans cette cohérence du développement durable, des énergies renouvelables venant de la mer, Et là, croyez-moi, il y a une réelle potentialité, soit sur le biofuel algal, soit sur les hydroliennes. Par exemple, le long de la Bretagne, au niveau du Rat-Blanchin ou au niveau du Gulf Stream, donc beaucoup plus loin que la Bretagne, on peut espérer, avec de très grandes hydroliennes, capter un certain nombre d'énergie.
Alors, pour Sea Orbiter encore, vous nous avez parlé de cette coque. J'aimerais que vous nous décriviez à la radio, pour nous faire un petit peu rêver, est-ce qu'il y a un endroit, la cabine du capitaine, comment ça se passera?
Alors déjà, imaginez un vaisseau, un bateau de, vous l'avez dit tout à l'heure, 58 mètres de long. Donc imaginez ce bateau de 58 mètres de long, vertical. Déjà, c'est peu commun, mais c'est pour des questions d'utilisation à la mer, de stabilité, et surtout des programmes, puisque les programmes de Sea Orbiter, ce bateau qui est à la verticale, un certain nombre de ponts, on vivra sous l'eau, en observation constamment, 24 heures sur 24, grâce à de grands hublots qui permettront à l'équipage de regarder sur une longue durée, 24 heures sur 24, qu'est-ce qui se passe autour de Sea Orbiter. Bien entendu, avec un certain nombre de robots, en plus des hommes, de cet équipage de 18 personnes, qui pourront aller butiner un certain nombre d'informations pour ramener dans cette ruche que représente Sea Orbiter les informations et les transmettre au reste du monde, puisque l'idée de Sea Orbiter, c'est un outil éducatif, basé évidemment sur un programme scientifique. Mais ces 18 membres d'équipage pourront surtout sortir d'une façon extravéhiculaire, comme la station orbitale de l'espace, sortir à moins 12 mètres sur justement ce grand disque qui stabilise Sea Orbiter grâce à un système...
Comme une plage artificielle sous l'eau, j'allais dire.
Voilà, et donc sortir pour faire un certain nombre d'observations ou d'analyses, quel que soit quasiment l'état de surface, c'est-à-dire s'il y a une houle avec des creux de 3, 4, voire 5 mètres, nous pourrons directement à moins de 12 mètres, grâce à un hangar pressurisé, sortir avec un sous-marin biplace. Donc les hommes pourront sortir jusqu'à 600 mètres de profondeur, mais on pourra aussi sortir les ROV, donc des robots sous-marins, jusqu'à 1200 mètres. Et surtout, on a un drone qui s'appelle un AUV, un drone sous-marin qui descendra jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Le grand avantage de Sea Orbiter, c'est que quasiment, quelles que soient les conditions de mer, on peut continuer à travailler sous la mer, ce que n'offre pas un bateau océanographique, un bateau de surface.
Bon, ça paraît...
C'est une belle aventure humaine du 21e siècle. C'est une grande aventure au cœur des océans, dans cette immensité que représente l'océan. Bon, c'est une sentinelle. Il va y avoir dans chaque océan, on a prévu 7 à 9 Sea Orbiter. Pour rentrer en réseau, bon, la première sentinelle Sea Orbiter sera dans le Gulf Stream, donc dans tous ces grands courants, ce grand courant que constitue l'ensemble du Gulf Stream, pour, comme vous l'avez dit, analyser soit le climat grâce à cette perche verticale de 58 mètres, tous les 25 cm au-dessus de l'eau, donc, c'est-à-dire 27 mètres de haut, il y aura donc des capteurs, et puis 31 mètres sous l'eau, puisqu'il y a 31 mètres sous l'eau jusqu'au bout de la quille, il y aura des capteurs tous les 25 cm qui permettront donc d'étudier ces phénomènes climatiques. Mais surtout, le programme Sea Orbiter, c'est la biodiversité, de comprendre un petit peu l'éthologie, comment se comportent en pleine mer certaines espèces, de les observer nuit et jour. Il n'y a pas d'engin à l'heure actuelle qui permette d'une façon constante, permanente, sur des longues durées, d'être en poste d'observation, en veille, pour voir des phénomènes jamais observés à ce jour. Nous sommes sûrs de pouvoir observer des phénomènes jamais observés par l'homme, dû au fait de cette présence permanente sur des longues durées.
On sait déjà quelles équipes scientifiques participeront, parce que là on est à, je sais pas, le chantier va durer un an et demi.
Oui.
Donc en gros, ça sera.
Si tout se passe bien financièrement, si on a les 20% qui restent. D'ailleurs, pourquoi pas, certains de vos auditeurs peut-être peuvent se passionner pour cette aventure, sait-on jamais. Non, pour être très sérieux, donc il est évident que nous avons bâti dès l'origine du programme Sea Orbiter des programmes scientifiques, puisque ça nous a permis d'analyser avec des scientifiques, de voir comment utiliser un tel engin, la spécificité de cet engin, qui est en complément des engins déjà à la mer, comme les bateaux océanographiques ou les sous-marins scientifiques, et qu'est-ce que Sea Orbiter apporte de différent. Donc on a bâti ça depuis plusieurs années, que ce soit avec l'IFREMER, que ce soit avec la NOAA aux États-Unis, que ce soit surtout maintenant avec l'Université d'Hawaï d'Océanographie,
ça, qui, c'est nouveau,
qui accompagne le programme Sea Orbiter, ou que ce soit avec les Coréens, donc Cordi, qui est l'IFREMER en Corée, qui accompagne donc le projet avec des programmes très spécifiques, soit sur justement le phytoplancton, le zooplancton, de voir de nouvelles souches de phytoplancton, ou sur la biodiversité, suivant certains programmes dans tel courant par rapport à telle époque de l'année, pour voir un petit peu des phénomènes migratoires de certaines espèces, ou le marquage, par exemple, en pleine mer de tortues luttes. Donc, il y a une diversité de programmes, mais à chaque fois très spécifique aux capacités que représentent ces orbitaires par rapport aux engins existants.
Et ces projets scientifiques seront liés à des pays ou des instituts, comme vous venez de nommer. Donc là, il y a une équipe internationale.
Voilà.
Et c'est projet si orbitaire que ça doit intéresser normalement tout le monde, y compris les États.
C'est ce qu'on a vu à Rio Plus 20, en tout cas. Ouais. C'est ce qu'on a pu constater dans le Forum global des océans pour les 10 ans dont vous parliez. On a vu, et à Hawaï, au congrès POGO, qui rassemble l'ensemble des acteurs de l'océanographie au niveau planétaire, on a vu l'impact du programme C-Orbitaire, puisqu'ils adhèrent à ce programme, ils participent à ce programme. C'est vrai que les programmes, d'abord, ce sont des programmes internationaux, avant tout, donc ce n'est pas franco-français. Bien entendu, IFREMER joue un rôle très important. Bien entendu, IFREMER a une sorte de coordination de ces programmes. Mais je vous rappelle que C-Orbitaire, le but de C-Orbitaire, et c'est ce que nous avons dit à Rio Plus 20, le but de C-Orbitaire, c'est la Blue Society, c'est-à-dire de faire prendre conscience à l'ensemble des acteurs de la planète qui s'intéressent aux océans, des jeunes, des moins jeunes, qui veulent avoir une vocation par rapport à quels que soient les métiers, la discipline, qui veulent avoir une vocation par rapport à l'océan, de leur faire prendre conscience, d'aller encore plus loin, de leur faire prendre conscience de ce que représente l'océan. Donc ça s'adresse aux gens surtout qui veulent avoir une action par rapport aux océans, mais au niveau planétaire. Et pour ça, pour donner cette information, il fallait le bâtir sur un programme international scientifique. C'est pour ça que nous avons proposé aux scientifiques et surtout à l'organisation POGO de prendre en charge avec l'IFREMER cette coordination pour le contenu scientifique de ces orbitaires.
Alors ça, c'est la partie lourde du projet, en fait,
oui,
quand même, puisque
c'est
l'intérêt.
Grosse partie, tout à fait.
Quel accueil est fait à ces orbitaires, en règle générale? Avant le Forum global des océans, vous avez été en Chine. Comment est-ce que c'est reçu, perçu en Asie?
Eh bien, ces orbitaires, on s'aperçoit à l'heure actuelle, en toute humilité, que ces orbitaires est un outil qui apporte non seulement du rêve, mais quelque chose de pragmatique, un rêve pragmatique, comme on dit. C'est-à-dire, c'est un outil qui est porteur de symboles, de valeurs, qui véhicule ces valeurs, des rapports de l'homme à la mer. C'est vrai que l'engin est étonnant de par sa configuration technologique. Je rappelle que ces orbitaires a été testé. Un modèle a été testé en bassin de Karen au Marinetech en Norvège, donc ce n'est pas une idée comme ça farfelue. L'engin a fonctionné pendant ces tests. C'est vrai que cet engin donne un regard complètement différent et donne donc du coup ce regard qu'ont les gens sur cet engin. Ils comprennent la spécificité de cet engin, de justement ce regard permanent par l'homme sous la mer et sur des longues durées, et fait prendre conscience qu'il faut vraiment qu'il y ait cette permanence de l'homme sous la mer sur des longues durées. Et donc, du coup, à l'heure actuelle, comme la mer, l'océan est en train de jouer, d'être un acteur majeur dans les grandes décisions géopolitiques et géoéconomiques de demain, on le voit bien, étant un poumon d'espoir pour l'humanité. Donc, c'est vrai que C-Orbitaire se trouve au bon moment, au bon endroit, pour être un petit peu le vecteur, l'ambassadeur de ces grands enjeux de demain. Ça a été perçu comme ça à Yeosu, donc c'est l'exposition à l'heure actuelle nationale sur l'homme et la mer en Corée. J'y étais donc pour l'ouverture il y a à peine un mois, mais ça a été perçu dans le cadre du Forum global des océans à Rio Plus 20, donc sous l'égide des Nations Unies, où on a présenté ces orbitaires et on voit bien l'impact. L'impact, ça fait très plaisir, évidemment, c'est très chaleureux de voir que l'impact de ces orbitaires est énorme, énorme. Et on voit les retombées au niveau planétaire, au niveau des contacts que nous avons, ou ne serait-ce que de la presse.
Il y a une immense maquette qui est présentée à l'exposition là, dont vous parlez à Yeosu, du Cyrobiter.
Dans le cadre du pavillon français, justement, donc au cœur du pavillon français.
Aussi, c'est une reconnaissance du projet, mais en plus, c'est un bateau phare, vraiment, sur cette belle aventure. J'allais dire, la pression monte, là, parce que si tout le monde rejoint ce projet...
La pression monte, mais avec une certaine sérénité, parce que c'est un projet... D'abord, il faut savoir que ce projet fait suite à près de 30 ans de recherche et surtout de réalisation d'habitats sous la mer et de vécu d'expériences déjà préparées d'une façon plus sédentaire au départ, c'est-à-dire ces maisons sous-marines étaient en point fixe. Donc, ça a été Galatée que nous avons réalisé, Hippocampe, Aqualab, et puis les expériences avec les Américains dans le programme Nemo, encore dernièrement, avec Bill Todd. Puis les programmes que nous avons faits en 92, donc avant le plus long séjour sous la mer, 71 jours sous la mer que j'ai pu faire avec les Américains et les astronautes.
Vous en êtes détenteur.
Voilà, donc tout ça, plus après l'Aquaspace, ce trimaran avec la coque transparente, qui est, disons, le début de Cyrobiter, où on a traversé l'Atlantique, on a suivi le Gulf Stream, la migration des baleines, de certains cétacés. On avait donc la coque centrale sur 20 mètres de long de ce trimaran complètement transparent. Donc, ça nous a permis de voir d'une façon permanente, sur de longues durées, déjà d'observer, et ça nous a permis de voir un certain nombre de choses. Donc, depuis 10 ans, on prépare ce programme Cyrobiter. Ça a été lancé avec Jacques Picard, qui malheureusement nous a quittés, et avec Jean-Loup Chrétien, un certain nombre d'océanographes et d'instituts de recherche, comme le Woods Hole, donc aux États-Unis, et le Scripps. Voilà, donc ce programme s'est mis en place. Il a fallu valider ce programme à travers une maquette en bassin d'essai au Marine Tech dont on parlait tout à l'heure. Et puis là, le moment est venu maintenant. On est prêt pour la construction. Donc, on est préparé depuis longtemps avec une certaine sérénité, bien entendu. Il y a une montée en puissance. Il nous tarde de lancer le chantier. Je rappelle qu'il y a 1 an et demi de chantier. Puis on mettra, donc on espère, en juin 2014, Cyrobiter à l'eau, ou peut-être avec un certain décalage, mais on espère que courant 2014-2015, on verra les premiers essais de Cyrobiter.
Ce projet est international. Vous l'imaginez sous la coupe réglée d'un groupe de nations, ou comment est-ce que son indépendance scientifique sera maintenue ?
Non, il est évident que ce projet, il y a une charte qui a été bâtie, ce projet s'adresse à un niveau international et au plus grand nombre, tous les jeunes et moins jeunes, mais surtout s'adresse aux jeunes, soyons clairs, au niveau international. Donc, toute personne qui participera ou organisme qui participera à Cyrobiter prendra un engagement par rapport à une diffusion planétaire au service de la planète. Donc, il est clair qu'il y a cette charte. L'utilisation du Cyrobiter ne se fera qu'à partir de cette charte.
Quelles priorités, justement, identifiez-vous à l'issue du Forum global des océans ? Je voulais dire des priorités sur l'avenir des océans ou des problèmes majeurs d'aujourd'hui, là. Vous êtes un spécialiste de toutes ces questions.
Oui, alors, c'est vrai qu'à Rio plus 20, on a regretté, les journalistes ont traduit à leur façon, toujours un peu trop négatif à mon goût, mais c'est vrai qu'on a pu regretter que les avancées n'ont pas été aussi probantes que ce qu'on aurait pu espérer et que les chefs d'État n'étaient pas aussi présents qu'on aurait pu espérer. Mais dans le domaine, qui est le domaine que je connais beaucoup plus, le domaine de l'océanographie, il y a eu des avancées probantes. D'abord, à travers le Forum global des océans, sous l'égide des Nations unies, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées, qui ont été définitivement entérinées. Par exemple, la Blue Society, à travers l'Alliance, donc de regrouper les acteurs au niveau international qui œuvrent par rapport aux grands enjeux de demain que représentent les océans, et donc créer donc, cette Blue Society qui débouchera sur une économie bleue. Donc, ce mouvement qui était déjà sous l'égide du Forum global des océans, mais sous l'égide de l'action surtout de Philippe Valette, donc qui a lancé ce concept depuis un certain temps, à travers le. Parce qu'il a un regroupement de tous les aquariums, de tous les centres de la mer du monde qui est réuni, qui représente un nombre, je n'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est de l'ordre de. Enfin, plus de 60 millions de personnes. Donc, c'est énorme pour créer justement cette Blue Society. Donc, les statuts, tout a été déposé, a été entériné. Et ça, c'est une avancée. C'est un ancrage qui est maintenant indestructible et qui va permettre aux différents acteurs d'œuvrer ensemble et d'apporter un certain nombre de solutions à cette Blue Society.
C'est un projet utopique ?
Ah, pas du tout. Ah, non, on n'est plus du tout, on est dans le pragmatisme, au niveau juridique, à tout niveau. Ça va depuis les problèmes d'aménagement.
C'est la mise en œuvre des accords internationaux relatifs aux océans.
C'est entériné au niveau international. Il y a différents acteurs au niveau planétaire, dans différents secteurs. Donc, c'est quelque chose qui ne peut... Et puis, qui va dans le sens de l'histoire. C'est un besoin de société. Il y a une demande au niveau planétaire de la société. On n'est ni dans le rousseauisme, ni dans le babacool. Attention, c'est extrêmement sérieux au niveau juridique et au niveau action. Et ce n'est pas sensibiliser, on n'est plus dans la sensibilisation, on en est dans l'action pragmatique. Bon, step by step, allons doucement, essayons de voir les différents secteurs où on peut avoir une réelle action par rapport à d'autres acteurs qui, pour d'autres raisons, n'ont pas intérêt à trop développer trop vite cette blue economy. Mais non, disons qu'on a un certain nombre de pouvoirs qui nous permettent d'avancer et au contraire d'accompagner des acteurs économiques qui n'ont pas encore cet ancrage suffisamment défini. Donc c'est un accompagnement, ce n'est pas un empêchement, on n'est pas une ONG, on n'est pas, ça n'a rien à voir. Nous sommes là pour accompagner la société à ce changement sociétal qu'on est en train de vivre par rapport à l'océan. C'est un accompagnement, c'est un outil d'accompagnement à différents niveaux des acteurs actuels économiques, géopolitiques, par rapport à la mer. Donc c'est pour les accompagner d'une certaine façon.
Cette mutation, vous l'évaluez sur combien ? Une génération, deux générations ?
Je crois qu'il faut être prudent. Bien sûr, c'est normal. Un certain nombre de ces acteurs voudraient que tout de suite, il y ait un résultat. Comme Rio plus 20, on a tous espéré qu'il y ait quand même plus de résultats que ce qu'il y a eu, c'est évident. Mais Rio plus 20, ce n'est pas non plus un échec. C'est aussi un enracinement. C'est une suite de Johannesburg, c'est une suite de Copenhague. Il n'y a pas de recul. Simplement, c'est vrai que ça aurait pu aller plus loin et on peut tous le regretter. Maintenant, c'est un enracinement dans des tas de secteurs économiques, dans des tas de secteurs de décision géopolitique. Et voilà, c'est ça qui est important. Attention, il faut être prudent dans les changements sociétals. Qui a la vérité ? Même sur les problèmes climatiques, il y a une urgence. Mais il faut prendre les bonnes décisions. Personne n'a la bonne décision. Donc, il faut donner des orientations, vérifier d'une façon scientifique, justement, ces choix qui sont faits géopolitiques, pour faire les bons choix définitifs qui sont adaptés à très long terme. Car il faut voir aussi à moyen et long terme. Voilà, bien sûr que ce serait l'idéal de pouvoir tout résoudre d'un coup de baguette magique en moins d'une génération. Mais je pense qu'il y a déjà quand même un chemin parcouru depuis les années 70. On n'est plus à la sensibilisation, on en est vraiment à l'action. Bon, l'action est peut-être insuffisante, mais elle est là, elle existe.
Quel est votre regret sur, justement, le texte ou la conclusion finale de Rio plus 20 ?
Le regret, c'est vrai que j'aurais souhaité qu'Obama et d'autres soient présents, parce que ça aurait eu un impact fort, comme Rio, il y a 20 ans. Les chefs d'État s'étaient retrouvés, bon, des États-Unis, il y avait Cousteau. On a besoin de ces chefs d'État pour donner une force à de tels événements. Il n'y a pas que ça, bien sûr, comme regret, mais c'est un des regrets majeurs que j'ai.
Oui, ce rendez-vous manqué avec le président américain.
Voilà, américain, mais il n'y a pas que lui. Il y a la chancelière, il y en a beaucoup d'autres, malheureusement. Mais les organisations étaient là, les différents acteurs étaient là. Mais du coup, la presse, qui est un outil fantastique, mais redoutable en même temps, a bien, bien noté que...
Cette absence.
Voilà, cette absence.
Et alors, inversement...
Du coup, ça a été perçu parce qu'il est important. C'est des vecteurs, après, d'informations au niveau planétaire. Et les gens qui n'ont pas pu venir, qui n'ont pas pu observer, qui n'ont pas eu cette chance comme nous, ben, du coup, il y a des interprétations. Et quand, en France, on parle de Rio plus 20, moi, de partout, j'entends que du négatif. On me dit, ah, t'as vu, c'était un échec. Non, c'était pas un échec. C'était une partie d'échec, mais pas la totalité. Il faut être plus nuancé.
Qu'est-ce qui vous a particulièrement bluffé alors pendant cette rencontre ?
Qu'est-ce qui m'a bluffé ?
Oui, oui, pendant ces rencontres, ces échanges, le suivi.
C'est la part des jeunes qui sont là, de ce qu'ils représentent, de leur engagement, de leur solidarité pour la plupart de leur calme. Là aussi, on montre que quand il y a quelques énergumènes un peu excités, les bagarres qu'il y a pu y avoir, mais il n'y en a eu quasiment pas. C'est la force des discours, la cohérence de la plupart de ces discours et surtout de l'échange, une sorte de fraternité planétaire extraordinaire sur ces grands enjeux que représentent l'homme et l'environnement et ce grand changement qui est en train de s'opérer, quoi qu'on en dise, planétaire sur les rapports de l'homme et de son environnement et de préparer l'économie de demain. C'est ça qui est important.
Une page est tournée, là. On est passé à autre chose,
oui,
à une autre vitesse.
Une page manifeste. Voilà, si vous avez exactement dit ce que j'aurais dû dire. Je pense qu'une page est vraiment tournée d'une façon positive. Voilà, il faut oser le dire. Une page est tournée d'une façon positive. Maintenant, il y a du travail. Il faut retrousser les manches, comme on dirait d'une façon simple. Je pense que beaucoup, beaucoup de jeunes au niveau planétaire sont en train de le faire dans différentes disciplines, parce que ça, c'est un engagement dans des tas de secteurs. Ce n'est pas un engagement uniquement sur l'océanographie, sur la biodiversité, sur la protection. Ce n'est pas la protection uniquement. C'est aussi l'engagement sur l'économie de demain. Sur quoi est basée l'économie de demain? Sur les énergies renouvelables venant des océans ou d'autres sources d'énergie comme le solaire ou l'éolien? C'est la nourriture du futur, c'est tous ces engagements, la pharmacologie de demain, et les rapports entre les hommes. C'est unique dans l'évolution de l'humanité. Enfin, il faut quand même resituer le vrai débat. Jamais, à travers l'évolution de l'humanité, jamais il y a eu des rassemblements comme ça, et pour cause. Donc, c'est ça le côté positif. C'est un engagement planétaire de la part des jeunes pour essayer de comprendre, d'essayer d'accompagner ce changement sociétal.
Vous expliquiez tout à l'heure que Sirbiter était le fruit de toutes vos œuvres précédentes, bien sûr.
Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, hein, soyons modestes, et dans l'évolution de l'humanité.
Je revenais à vos débuts. En 1974, vous créez une agence d'architecture de la mer et de l'espace.
Oui.
C'était pour conclure sur autre chose, mais c'est pour aussi dire combien vous êtes attaché à cette vision globale que vous avez toujours eue. Parmi les découvertes récentes scientifiques, il y en a une qui m'a frappée. Je voulais vous demander ce que vous en pensiez, si ça vous avait fait rêver et ce que ça avait provoqué chez vous. On a découvert, vous savez, sur Titan, que ce satellite pourrait abriter un océan.
Automatiquement, vous a inspiré? J'ai eu la chance, grâce à Jean-Loup Chrétien, d'avoir des rapports très étroits avec Dan Goldin, qui était l'administrateur de la NASA. Et déjà, il y a 15 ans, il me faisait rêver avec Europa, donc quand ils ont découvert cette calotte glaciaire. Donc, dès qu'on parle de possibilités d'eau, je suis très à l'écoute de la moindre information sur Mars. Est-ce qu'il y a une molécule d'eau, voilà, enfouie dans les substrats de Mars ou sur d'autres planètes,
je suis
très à l'écoute, parce que c'est évident que c'est la vie. Si on trouve de l'eau, on a de grandes chances de trouver la vie. Et dans l'immensité de l'univers, il est clair qu'on a de grandes chances de trouver la vie, mais pas uniquement. Peut-être, je vous rappelle que Darwin parlait que sans photosynthèse, il n'y a pas de vie possible sur la Terre. On a découvert il y a à peine une trentaine d'années que sans photosynthèse, dans les abysses, sur les dorsales atlantiques, ben, au contraire, sur les sources hydrothermales, il y avait possibilité, avec ces réactions chimiques, de créer la vie. Donc, ça donne encore un espoir encore beaucoup plus grand pour qu'il y ait d'autres formes de vie dans l'univers. Et je crois que c'est une des grandes quêtes de l'homme depuis son origine, de chercher, est-ce qu'il est seul? C'est le grand mystère dans cette immensité que représente l'espace. Est-ce qu'on est seul? Ce serait terriblement triste à plus petite échelle. Et je ne sais pas si la comparaison est très bonne, mais c'est comme quand vous avez un projet comme Sirbiter. Si vous êtes seul à penser sur un projet comme ça, aller voir au cœur des océans, ça n'a pas grand intérêt. Sirbiter, c'est parce qu'à l'heure actuelle, l'humanité, des hommes et des femmes, se lèvent pour construire ce futur, pour aller voir dans l'espace, justement, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les grandes découvertes de demain, et sous la mer, quelles sont ces grandes découvertes. Et donc, Sirbiter est un des vaisseaux, comme du temps de la Pérouse, qui vous amène à l'autre bout du monde pour découvrir de nouvelles espèces, de nouvelles formes de pensée, un nouveau regard sur l'humanité. Et Sirbiter fait partie de ces grands moments. Et c'est une grande chance de pouvoir participer, pour moi, à une telle aventure.
Merci Jacques Rougerie d'être venu nous présenter le projet Sea-Orbiter, là, cette date de début juillet 2012, et de nous montrer comment notre vision du monde va changer. C'est pas qu'elle va, c'est
change,
qu'elle change.
Et elle est change. En train de changer profondément. L'espace a ouvert de nouvelles technologies, que ce soit l'informatique, les ordinateurs, le cellulaire et d'autres dans la médecine. Le monde sous-marin va ouvrir à l'homme des nouvelles innovations, de nouvelles technologies qui vont être porteuses pour soit la technologie sur les énergies renouvelables venant des océans, soit une partie de la nourriture de demain, la nourriture du futur, soit la pharmacologie de demain. Il y a un champ extraordinaire d'innovation pour les jeunes et d'espoir.
Merci.
Merci à vous.
Thank you.